Georges Butet.
Bonjour, madame la directrice.
À nouveau ensemble, Georges, pour cette émission de la Confédération des Pays... Confédération
Paysanne.
Paysanne, tout simplement. Je cherche un adjectif comme français, mais non. C'est peut-être même pas français seulement.
Non, non, il y a maintenant une Via Campesina qui regroupe des syndicats pratiquement du monde entier.
Donc la Confédération.
Et puis il y a la Confédération paysanne européenne aussi. Donc voilà. C'est...
Tout ça se décline au niveau international.
Oui.
Alors, Georges Butet, c'est maintenant la quatrième émission que nous passons ensemble. Nous sommes partis de la Suisse en 1929, date à laquelle vous êtes né, année à laquelle vous êtes né. Nous sommes passés par la Suède, revenus en Suisse. Nous nous sommes arrêtés longuement au pied du Pic Saint-Loup avec des troupeaux d'animaux à protéger. Nous avons rencontré avec vous, Georges Butet, des Edgar Dyer, ce pasteur un peu en marge.
Edgar Doulière.
Voilà,
à Edgar Doulière. À ne pas confondre avec Dyer.
Dyer, et voilà, c'est là. Edgar Doulière, des Pierre Rabhi, Lanza del Vasto via Léon Maillet. Et en 2003, nous sommes sur le plateau du Larzac. Et là, un autre acteur dans votre vie intervient. Monsieur Libouban.
Oui, Jean-Baptiste Libouban,
Jean-Baptiste.
Je le connaissais par l'Arche, évidemment. Et mais ce qui était intéressant dans cette rencontre fabuleuse de 2003, d'août 2003, c'était que c'est à cet endroit-là que Jean-Baptiste Libouban a lancé le mouvement des faucheurs volontaires pour s'opposer au maïs transgénique et autres transgéniques. Voilà, donc c'était, je pense que c'était vraiment un mouvement qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, on a obtenu beaucoup de succès, et on peut dire que grâce à Internet et au mouvement des faucheurs volontaires, on a obtenu des victoires qu'on aurait peut-être mis beaucoup plus longtemps à obtenir contre ces traficages de gènes et autres.
Est-ce que ces faucheurs volontaires étaient dans une perspective non violente ?
Ah, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Et puis alors après, s'est enchaîné les faucheurs de chaises qui allaient piquer des chaises dans les banques pour les obliger à arrêter de favoriser l'évasion fiscale et d'autres pratiques pas très sympathiques.
Ces pratiques n'ont, je crois, pas cessé, mais se sont-elles ralenties, ont-elles été modifiées?
Ils sont obligés d'en tenir compte, mais disons qu'on n'a pas encore obtenu les victoires qu'on a pu obtenir au niveau du maïs ou d'autres choses transgéniques. Voilà. Et puis, bon, après, il y a eu la lutte contre la ferme-usine dans la Somme.
Ah, il était question d'élevage de porcs ?
Non, c'était la création d'une usine d'élevage de 1000 vaches produisant du lait, mais qui n'était qu'un sous-produit, que le produit essentiel devait être la méthanisation des excréments des vaches. Mais c'était affolant parce qu'il fallait aller chercher la nourriture des vaches à des dizaines de kilomètres, que des camions auraient circulent parce que on n'a pas réussi à empêcher la création. On a réduit le nombre, on a pu obtenir l'arrêté préfectoral qui réduisait à 500 vaches. Cependant, ils en sont encore à 800 vaches et normalement, ils devaient payer une contrainte X par jour de retard dans la réduction de ce troupeau de vaches. Et alors, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est là, la Confédération paysanne s'est beaucoup investie, notamment avec une paysanne à la retraite de la Drôme qui sont allées démonter la salle de traite qui était en construction. Ils ont dévissé correctement, ils n'ont absolument rien abîmé, mais ils ont donc été traînés en tribunal pour cette action. Et dès le début, ça, c'était prévisible parce que les vaches ne bougeant pratiquement pas, il y aurait de la mortalité, d'autant plus que les vaches venaient de différentes régions et que c'est sûr qu'il devait y avoir du parasitisme ou des microbes qui traînent. Et il y a eu, je crois que c'est de l'ordre de pas loin de 50 vaches qui sont mortes en relativement peu de temps. Il se trouve que l'entrepreneur BTP qui avait organisé ça, M. Ramery, il est décédé aussi. Donc c'est son associé qui continue, mais là aussi, on voit le temps qu'il faut pour obtenir que ces messieurs, parce qu'ils sont bien placés, puissent être condamnés. On a l'expérience récente, Laure Adler interviewée sur France Inter hier soir, Irène Frachon, celle qui a dénoncé le scandale du Mediator, je crois. Oui. Ça. Et puis, on a le récent, c'est un autre truc pour les... Enfin bref, ouais. Sur le plan des laboratoires, on met des années et des années, on a l'impression qu'ils attendent que les gens meurent pour avoir à payer moins d'indemnités. Et là, c'est incompréhensible que l'État soit aussi laxiste par rapport à ces grands laboratoires. Mais bon, c'est comme ça. Donc,
faut se battre.
Il faut que les petits se battent. D'autant plus
que les petits se battent pour les animaux.
Voilà. Oui, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire concernant l'élevage. On est en train de faire toute une histoire, notamment une des deux finalistes de l'élection, là, pour ne pas la citer, Madame Le Pen.
Il n'y a qu'une.
bagarre pour l'obtention de l'interdiction de l'abattage rituel. Mais l'abattage rituel, que ce soit chez les juifs ou chez les musulmans, ça n'est qu'un petit moment. Alors que l'élevage tel qu'il est dans les grandes écuries de porcs, de vaches et autres, c'est une souffrance au quotidien et pendant des années.
C'est ça.
Et puis, alors moi, je me place du point de vue d'un croyant. Ce qui est intéressant, dans l'abattage rituel juif, on dit, alors le shochet, l'abatteur rituel, dit des prières, de même chez les musulmans, mais...
Il y a un rite.
La tradition juive dit que c'est l'homme qui aura le plus de comptes à rendre quand il se présentera devant Dieu d'avoir exercé ce métier. Donc malgré toutes les précautions, ça va pas de soi. Ça va pas de soi, donc c'est un faux procès, c'est un mauvais procès d'embêter les gens qui, pour l'abattage rituel. Parce qu'en fait, je vais vous raconter une histoire. On avait un ami qui vendait des trucs bio à Saint-Hippolyte-du-Fort, il y a donc au début des années 80. Et il était handicapé physique et il avait un garçon mauricien qui donnait un coup de main. Et il a voulu faire une fête pour donc, un méchoui. Donc, le compagnon qui était au Pic Saint-Loup et grâce à qui on est arrivé avec les troupeaux a donc offert un mouton, mais il n'avait pas le temps de s'en occuper. Donc, il a expliqué au garçon, à ce Mauricien, comment il fallait qu'il procède. Et il a expliqué au mouton ce qu'on attendait de lui, pourquoi on lui demandait de donner sa vie. Et le mouton a tendu le cou pour que le garçon puisse couper la jugulaire. C'était bouleversant, bouleversant. Et oui, et là aussi, si on parle aux animaux, hein, il y a d'ailleurs une très belle phrase dans le prophète de Khalil Gibran, « Puissiez-vous être reconnaissant que l'animal donne sa vie pour vous ?» Donc là, on va enfin quitter la barbarie et peut-être devenir des êtres civilisés.
Je me dis souvent que dans un siècle, on nous regardera avec des yeux béats d'étonnement, mais comment ont-ils pu traiter ainsi d'autres êtres vivants ?
Ah oui, c'est fou, c'est fou. Et c'est vrai que je ne sais plus qui a dit, ben je crois que c'est Gandhi qui a dit, tant que l'Occident aura des abattoirs, il y aura des guerres. Et oui.
En 2003, donc, cette rencontre avec Lee Bouban, enfin, cette énième rencontre, mais en tout cas, cette démarche à laquelle vous participez, au fond, ces faucheurs...
Je n'ai pas eu l'occasion d'aller faucher, mais je suis en pensée avec eux et ma prière les accompagne. Et comme je crois à l'efficacité de la prière...
Et aujourd'hui, donc, évidemment, nous sommes en 2017 et vous faites aujourd'hui une mission sur la Confédération paysanne. Donc, comment est-ce qu'on fait tout ce lien, liens entre ces univers-là ?
J'ai eu l'occasion, évidemment, de rencontrer très, très vite, au début des années 2000, José Bové et quantité de ces gens-là, notamment... un vigneron qui était à pas très loin de Montpellier, Dominique Soulier, que j'ai eu l'occasion d'interviewer pour
votre émission. Voilà.
Et donc ça fait déjà finalement un bon moment que j'ai été amené à d'abord une émission mensuelle. Et puis c'est après que le directeur m'a demandé si c'était possible de faire une émission hebdomadaire. Alors évidemment que la publication de la Confédération paysanne, Campagne solidaire, est publiée chaque mois. Et dans chaque numéro, il y a beaucoup d'articles qui peuvent intéresser les auditeurs de FM+. Et puis, je ne me contente pas de campagne solidaire. Je vais pêcher aussi des articles dans le Canard enchaîné. Et je cite aussi les articles publiés par les coopératives européennes de Longomaille qui sont... Alors, c'était très intéressant parce qu'au début, ils n'étaient pas très non-violents, mais ils le sont devenus en évoluant. Ils m'avaient un peu plaisanté parce que j'étais écolo et finalement, eux sont devenus très écolos aussi. Donc, il ne faut jamais s'inquiéter si les amis vous critiquent un peu pour ceci ou cela.
La Confédération paysanne, c'est une confédération qui réunit...
Alors, il y avait le MODEF, mouvement des ouvriers agricoles, je crois, et puis une autre association de paysans qui se sont, à l'occasion du combat pour le Larzac, se sont retrouvés. Et c'est Lambert qui était un responsable d'une des deux organisations donc, qui a créé qui a réussi à réunir ces deux mouvements. Et c'est ainsi qu'est née la Confédération paysanne qui, en maintenant, fête ses 30 ans. Et lorsqu'elle a eu 20 ans, donc il y a des artistes qui ont offert un CD de différentes chansons, etc. Et notamment, il y a, c'est un jour le 3 août qu'on s'est trouvé réunis, fort nombreux au Larzac, et qu'un jour, ça suffira. C'est une plage que j'ai l'occasion de faire passer durant l'émission, souvent. Quoi.
Aujourd'hui, il y a sûrement des paysans qui arrivent à cette confédération qui n'ont pas connu ces épisodes du Larzac. Est-ce que pour eux, ce n'est pas une histoire qu'on raconte comme ça combattants, ou est-ce que pour vous...
Je dirais que même pour les agriculteurs, je fais une différence entre agriculteurs et paysans.
Bon, est-ce que peut-être vous nous la direz un de ces jours ou bien tout à l'heure?
Oui, ben, un paysan, c'est non seulement quelqu'un de la terre, mais quelqu'un du pays. Et c'est des gens qui ont une culture. Il y a toute une culture. Après, ils sont amenés, comme tout le monde, à évoluer, bien sûr, et à changer de méthode, si leur méthode... Mais c'est souvent des gens, des petits agriculteurs c'est des gens qui réfléchissent beaucoup. Mes deux grands-oncles qui avaient pu rester à la terre étaient des gens très cultivés qui avaient une vision du monde qui était pacifique. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire de l'un d'entre eux, notamment avec son unique vache. C'était trop beau à voir, tellement.
Mais est-ce que c'est quand même pas une vision du monde à côté de ce qui se passe ailleurs? J'ai l'impression parfois vous décrivez là un univers qui pourrait se passer dans les années 20, comme dans les années 30, comme aujourd'hui, comme s'ils étaient un peu à côté de la plaque.
Eh bien, ils étaient peut-être considérés comme à côté de la plaque, mais je crois que maintenant on est bien sur la plaque et les idées défendu par ces gens-là, et moi-même, bien sûr, deviennent des choses compréhensibles par les citadins qui pourtant sont tellement éloignés du monde rural, de par toute la conception de la société jusqu'à maintenant. Mais non, ça, on a dépassé, je pense que l'évolution des auditoires de Pierre Rabhi sont là pour le démontrer. Ah, il y a 25 ans, il y avait 3-4 personnes pour l'écouter. Et maintenant, on laisse la moitié des gens dans la rue parce que la salle est trop petite pour venir écouter Pierre Rabhi. Et moi, j'étais intéressé, justement, comme ça fait longtemps, parce qu'il est très occupé, que je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais chaque fois que je peux écouter soit une intervention sur la radio, soit j'ai eu l'occasion d'aller l'écouter à Montpellier, je suis émerveillé de voir la façon dont il se renouvelle. Il y a bien sûr un fil conducteur, mais il est toujours à même de prendre ce qui se passe actuellement autour de lui pour faire des rapports.
Il n'est pas enfermé dans ses idées.
Non. C'est bien. Et puis, là, hier, on avait le conseil d'administration du CARI.
Et où vous étiez passé dans les années 98.
Oui, c'est ça. Donc, on a continué le travail du CIEPAD lorsqu'on a été mis en liquidation judiciaire. Puisque la préfecture avait organisé une enquête, parce qu'on pensait que c'était une secte. C'est d'ailleurs très drôle de voir comment les choses se passent. Alors que, par exemple, un Fennec qui s'occupe des sectes, il est plus sectaire que les sectaires. Bon, enfin, tout ça, c'est pour dire qu'il y a une évolution des choses et je pense que là, on va voir encore beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes dans les quelques mois les 3-4 ans qui viennent. Parce que, fort heureusement pour nous tous, le système est dans le mur. Le système financier, et qu'il en a fait pour longtemps. Donc, Marx l'avait prédit que c'était de par ses structures intrinsèques qu'il allait vers sa ruine. Mm. Bon, il a fallu 100 ans quand même, un peu plus 150 ans. Mais mathématiquement, c'est pas possible. Et c'est cette convergence de cette impasse dans laquelle est engagé le système financier et ultralibéral qui vient en convergence avec les idées écolo et humanistes.
Vous êtes à plusieurs reprises défini comme étant un paysan sans terre. Donc à ce titre-là, vous avez votre place à la Confédération des paysans. Qu'est-ce qui, vous avez un peu défini justement le paysan tout à l'heure, mais est-ce qu'un agriculteur, qu'est-ce qu'il aurait de trop pour ne pas faire partie de ce monde-là?
Ah ben, je veux dire que c'est pas parce que moi je fais la différence entre les deux que... Ah, quelqu'un que je considère comme un agriculteur ne peut pas rejoindre la Confédération paysanne. Et j'attends le moment où beaucoup de gens qui font partie de la FNSEA vont enfin comprendre que ce n'est pas la FNSEA qui va défendre leurs intérêts vitaux, hein, parce que beaucoup de ces gens-là se sont endettés pour aller dans le sens de ce que préconisaient les chambres d'agriculture et les industriels, puisque il fallait que ça tourne. Hein. Donc on les a amenés, et dans les lycées agricoles aussi, fort heureusement ça change actuellement, il y a beaucoup plus d'écoute. Et on parle de la culture biologique dans les lycées agricoles. Mais c'est des gens qui ont été formés comme ça et qui n'ont pas eu le recul nécessaire pour réfléchir, se demander si ce qu'on leur enseignait était vraiment ce qui convenait le mieux. Donc ce sont des gens qui se sont agrandis, qui se sont endettés. L'impression, quand on voit les énormes tracteurs sur lesquels certains sont, et c'est un ami paysan de Veynes dans les Hautes-Alpes qui m'avait dit, ils ont un tracteur inversement proportionnel à leur taille. Et c'est vrai. Lui-même avait un petit tracteur, un petit pony des années 30 qui était un Malabar. C'est fou. Donc, il y a tout ce sentiment d'infériorité qu'ils ont essayé de compenser par rouler les mécaniques. Et malheureusement, ça va être leur perte. Il y a d'ailleurs de plus en plus de faillites.
De suicides aussi.
Et de suicides. Je crois que l'année passée, il y a eu 250 suicides de paysans. Ce n'est pas encore autant qu'en Inde après la culture du coton transgénique. Et c'était quand Vandana Shiva a vu les dégâts qu'avait fait cette culture transgénique du coton, a quitté le domaine nucléaire dont elle s'occupait pour se battre, donc rejoindre tout ce combat des vrais paysans pour leur survie. Alors maintenant, on attend le moment où les industriels, les grandes laiteries notamment, plus toute la grande distribution, deviendra raisonnable et payera la production agricole au vrai prix, parce qu'actuellement, ils vendent à perte. sauf ceux qui se sont déjà organisés pour faire de la vente directe, soit à la ferme, soit au marché, soit même créer des boutiques à plusieurs, comme ça s'est fait à Lodève il y a quelques années et que ça se répand de plus en plus, où ils vendent leurs produits eux-mêmes. Ils sont d'astreinte à la boutique une fois par, un jour par semaine, mais ce qui leur donne aussi l'occasion d'avoir des échanges avec les acheteurs. Quoi. Mmh. C'est...
Il y a 100 ans, commun, commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commun, commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles, c'était des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans, commun, commune, comme artisans et ouvriers, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commun, commune, comme ouvriers et artisans, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Clément.
Oui, j'ai choisi la commune parce que c'est aussi un des scandales de notre civilisation, c'est que tout ce qui réunit les gens et qui en a un minimum de temps, parce que les Versaillais ne leur ont pas laissé beaucoup de temps, ça a été une affaire de 3 mois, mais en une poignée de jours, ils sont arrivés à donner leur parole aux femmes, à s'organiser pour résister, notamment à cause de l'avancée des Prussiens à l'époque. Et ça n'a pas plu au système, donc ils ont massacré la commune. Et on a tout fait pour ne jamais parler de la commune. Heureusement, il y a les anarchistes qui régulièrement en parlent. Et moi, j'en suis un, pour ma part. Je ne suis pas toujours d'accord avec les anarchistes, mais dans l'esprit...
Il nous faudrait une nouvelle commune, dans un nouveau genre, aujourd'hui.
Elle est en train de se faire. Elle est en train de se faire. Et moi, justement, je pense qu'il y a plein d'événements qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a 3 ou 4 ans et qui sont déjà en train de se produire. Et plus le système va vers sa perte, plus ça va pouvoir se manifester. Et le premier anarchiste connu, c'est Jésus.
Ah oui.
Jésus, libéral. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il était disciple de Hillel le Sage, qui était une des 2 écoles pharisiennes. Lui, l'école libérale, alors absolument, que Shammai, c'était l'école rigoriste, et ce Shammaier vient de là d'ailleurs. Donc Jésus, loin d'être en dehors de son monde, était en plein dedans et en même temps avait cet esprit d'innovation et de... Et malheureusement, le christianisme a foiré dès la fin du 1er siècle. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, quand on sait que chez les Juifs, l'accueil de l'étranger était important et il fallait intégrer l'étranger avant la Pâque suivante pour qu'il puisse participer à la Pâque. Et quand nous voyons la façon dont on essaye de refouler les étrangers, tout ça, au lieu de les accueillir, qui sont une richesse pour nous, parce qu'ils arrivent avec leur culture, avec ce qu'ils sont, avec cette volonté
participer, d'enrichir.
Oui, et puis surtout de ne pas subir ce qu'ils vivent là-bas dans leur pays. Donc, ils partent avec cette énergie de ceux qui ont décidé. Ça a été le cas pour ceux qui sont partis en Amérique. C'était des gens qui avaient un ressort. Et donc, là, mais il y a plein d'autres sujets où on voit que le christianisme est responsable de l'état du monde aujourd'hui.
Une certaine forme de christianisme.
De par, je dis le christianisme dans son âge, mais je devrais plutôt dire les institutions chrétiennes. Le fait qu'on puisse encore avoir une collusion avec le pouvoir temporel, c'est affolant. C'est affolant. Alors que justement, il fallait que les chrétiens se démarquent. Tout était commun entre eux. Personne ne disait sien ce qui lui appartenait. Chacun recevait selon ses besoins. Donc, ce qui arrive juste après la Pentecôte, quand l'Esprit Saint leur a enfin ouvert les yeux pour ce que Jésus était venu faire. C'est ce que j'avais eu l'occasion de dire dans le café théologique que m'avait demandé Gabriel Price, c'est que si on fait ça, cet engagement social, la puissance spirituelle est là. Et elle peut aller jusqu'au pouvoir de guérison. Et là, on a... Justement, je pense que ça vaut la peine que les gens qui sont chrétiens réfléchissent, et j'avais modifié un peu le titre de mon intervention quand j'ai dit croyant ou disciple ou croyant et disciple.
Un grand merci Georges Butet pour ces 4 émissions vécues avec vous, pour vous, pour la Confédération Paysanne. Et c'était vraiment un réel plaisir de parcourir toutes ces années et ces chemins-là en votre compagnie.
Oui, moi, je vous remercie d'ailleurs d'avoir songé à me demander ça, parce qu'effectivement, il paraît que je suis en âge où on doit commencer à transmettre.
À bientôt alors, Georges. À très bientôt.
À bientôt. Et merci encore.
Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole. Qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner.